la poésie et de Radio Occitanie, Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous allons, si vous voulez bien, commencer cette émission qui sera une pause un petit peu dans cet été caniculaire ici à Toulouse. Nous allons commencer par écouter Éric Frage. Éric Frage, ce troubadour des temps modernes, qui chante en français, en espagnol, en catalan, en occitan. Éric Frage, qui sera à la rentrée au Conservatoire Occitan de Toulouse et dont nous aurons le plaisir de réaliser une émission avec lui. Mais d'ores et déjà, nous allons le saluer avec un de ses titres qui est, on peut dire, un petit peu un de ses titres fétiches, parce qu'il avait fait de cet album Pep el Mal un véritable spectacle inoubliable que j'ai eu le plaisir de voir au théâtre Daniel Sorano, par exemple, à Toulouse. Donc, nous allons écouter Pep el Mal d'Éric Frage. Uns diuen que és com un animal, mentre que és un gentleman. Uns diuen que és roïn i brutal, mentre que li és ben normal. Tots el coneixen i saben que el ball és el millor Pep el Mal. Tots el coneixen i saben que val més que el rumor Pep el Mal. No té diners, però li és ben igual i se'n riu fent general. A l'home ric prou li toca el vestit i se'n fa un enemic. Pep, què vas fer, què has fet? Pep, per què et persegueixen? Ningú t'agafarà perquè és ràpid com el tren. Ningú et pot seguir quan vas corrent. T'agafarà perquè és lliure com el bé, ningú serà com tu li és mi valer. Molts veuen que és un poc especial, totalment fenomenal.
Totalment fenomenal.
I saben que mai no perd la moral enmig d'un drama fatal. Sembla dolent però és sentimental, els seus ulls són un fanal. Per ell l'amor és un cerimonial més important que el treball. Tots el coneixen i saben que el ball és el millor Pep el Mal. Tots el coneixen i saben que val més que el rumor Pep el Mal. L'única cosa que ell no pot fer és dansar amb un teret. I quan ell canta l'empresa a l'ocell no té un altre remei. Pep, què vas fer, què has fet? Pep, per què et persegueixen? Ningú t'agafarà perquè és ràpid com el tren. Ningú et pot seguir quan vas corrent.
t'agafarà perché és lliure com el vent i cursarà com tu li estivalé. Arrasacava lo dito oficial, no era un madrigal. Sempre viurà com si fora senyal, el conte de Pepe el Mar. Arrasacava lo dito oficial, no era un madrigal. Sempre viurà com si fora senyal, el conte de Pepe el Mar.
Voilà, c'était Pepe el Mal d'Éric Frage. Donc la musique était également d'Éric Frage et de Jean-Raymond Gélis. C'était en catalan, je vous dis brièvement de quoi il s'agit, Pepe le méchant. Certains disent que c'est un animal alors que c'est un gentleman. Certains le disent mesquin et brutal alors qu'il est bien normal. Tous le connaissent et savent qu'au bal, c'est le meilleur, Pepe el Mal. Tous le connaissent et savent qu'il vaut mieux que les ragots, Pepe el Mal. Il n'a pas d'argent, mais ça lui est bien égal et s'en moque en général. Il aime bien piquer le riche au vif et s'en faire un ennemi. Pepe, que fais-tu? Qu'as-tu fait? Pepe, pourquoi te poursuivent-il? Nul ne t'attrapera. Tu es rapide comme le train. Personne ne peut te suivre quand tu cours, nul ne t'attrapera, tu es libre comme le vent, personne ne sera comme toi, vif et vaillant. Beaucoup voient qu'il est un peu spécial, totalement phénoménal, et savent qu'il ne perd jamais le moral, au milieu d'un drame fatal. Il semble méchant, mais c'est un sentimental, ses yeux sont de vrais lampions. Pour lui, l'amour est un cérémonial, plus important que le travail. Tous le connaissent et savent qu'au bal, c'est le meilleur, Pepe el Mal. Tous le connaissent et savent qu'il vaut mieux que les ragots, Pepe el Mal. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est danser avec un métier à tisser. Et quand il chante, l'oiseau l'envie, c'est plus fort que lui. Ici, prend fin le récit officiel, ce n'était pas un madrigal. Il sera toujours une sorte de signal. Le conte de Pepe el Mal, donc l'épopée de Pepe el Mal, donc le grand-père de Éric Frage. Nous allons continuer. D'abord, je voudrais peut-être signaler assez brièvement un livre de Jean-Pierre Thuillard. Jean-Pierre Thuillard, qui est le directeur de la revue Friche, Friche cahier de poésie verte, l'excellente revue de poésie, et qui a publié un livre qui avait d'ailleurs été récompensé sur Bertrand de Born, le troubadour, Bertrand de Born, qui est un troubadour, comme beaucoup d'ailleurs, au destin tout à fait exceptionnel, totalement extravagant. Il a fait une très belle étude là-dessus, et il publie maintenant dans une édition bilingue, puisque Bertrand de Born écrivait bien sûr en occitan, donc occitan français, il publie les chansons de Bertrand de Born dans une présentation et donc la traduction donc, de Jean-Pierre Thuillat. Alors Bertrand de Born, voilà bien personnage complexe, comme je vous disais, de prime abord, modeste sire, lui-même se dit simple vavasseur. Il devient châtelain, ce qu'on appelle les dominus, c'est-à-dire le maître de chevalier, vers 1185, par la grâce du roi duc Henri II Plantagenet. Mais il est aussi et surtout poète, comme le fut avant lui, Guillaume, le duc des Aquitains, ou Eblès, le chanteur, vicomte de Ventadour. La poésie, pratiquée comme un exercice noble, est essentiellement destinée au cours seigneurial. Et d'emblée, ce qu'on pourrait appeler ce chant de Bertrand n'est pas passé inaperçu. À côté de quelques canzons amoureuses, ce qui a forgé sa réputation, ce sont ses nombreux sirventes. Les sirventes, ce sont des poèmes politiques et, ou bien, guerriers. C'est pour l'époque une espèce de sorte de rap, mais avec un art consommé de l'écrit et une dimension lyrique remarquable. Dans le choix de texte proposé par Jean-Pierre Thuillat dans ce livre, se veut le reflet de cet art et de cette culture littéraire d'un petit seigneur de la seconde moitié du XIIe siècle qui a côtoyé les personnages les plus puissants de son époque. Il tente de suivre la chronologie de cette création originale. Voilà. Alors, bien sûr, on vous invite à vous procurer ce livre. Alors, ce livre, où se procurer l'ouvrage? Eh bien, c'est un ouvrage qui coûte 15 euros. Et il faut se le procurer. Ce sont les éditions Fédérop qui le publient. Alors, les éditions Fédérop sont le pont du rôle, le pont, comme le pont, du rôle, R-O, accent circonflexe L-E, le pont du rôle, 1 avenue du Périgord, 24 680 à Garbonne. Gardonne. Je confonds avec Garbonne. Gardonne. Voilà, et vous pouvez tout simplement aussi, et je crois que c'est bien de faire ça, aller voir votre libraire, comme ça il le commande aussi chez l'éditeur. Hein, ils peuvent, voilà. Ou bien alors, vous pouvez également le commander chez l'auteur, mais à ce moment-là, il va falloir que vous versiez 3 euros de participation aux frais pour un envoi en lettres suivies. Et à ce moment-là, il faut faire un chèque libellé à l'ordre de Jean-Pierre Thuillat, adresse Le Gravier, 87 500 Glandon. Glandon. 87 500 Glandon. Voilà, tous ces renseignements seront sur notre site. Je pense d'ailleurs qu'ils y sont déjà, parce que je crois qu'on a déjà mis cette annonce de Haut et Fort, chanson de Bertrand de Borne, présentation et traduction de Jean-Pierre Thuillat aux éditions Fédérop. On est là encore dans la littérature occitane troubadour, après le magnifique ouvrage de Gérard Zucchetto, après la trilogie de Francis Pornon, après le livre sur Peyre et Vidal de Michel Cozem, donc les troubadours, à mon grand bonheur, hein, mon grand plaisir, sont de nouveau à l'honneur et j'espère qu'on va de nouveau s'imprégner de cette très haute littérature, de notre littérature occitane à qui nous devons beaucoup. Voilà, et puis la revue Friche publie son numéro 127, mais je vous en parlerai dans une prochaine émission. Là aussi, c'est Jean-Pierre Thuillat qui est le directeur de cette revue. La revue est à commander donc à... Alors, excusez-moi, je ne sais jamais... Alors, l'abonnement coûte 25 euros. Chèque libellé à Cahier de Poésie Verte, adressé à Cahier de Poésie Verte, Friche avec un S, Cahier de Poésie Verte, Le Gravier de Glandon, 87 500 Saint-Yrieix, Saint comme le Saint, trait d'union, Yrieix, Y-R-I-E-I-X. Voilà, et vous ne le regretterez pas. Puis vous pouvez évidemment envoyer, proposer vos textes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Michel Déguy. Alors j'ai beaucoup hésité avant de faire cette émission sur ce livre de Michel Déguy, tellement ce livre, j'ai trouvé ce livre absolument bouleversant. Je n'ai pas peur de dire que c'est un des textes les plus marquants que j'ai lu de Michel Déguy. Pourtant, Michel Déguy nous a habitués à une poésie puissante depuis ses premiers poèmes qui avaient été publiés donc chez Gallimard dans les années 70, si j'ai bonne mémoire, et puis qui avaient été suivis de Gisant également, les poèmes, jusque presque les années 2000. Mais là, avec ce livre, À ce qui n'en finit pas, édité à la librairie du 21e siècle, Seuil, c'est une nouvelle édition, revue et augmentée. Je crois que c'est un livre, alors il coûte 17 euros. Il n'est pas paginé, l'auteur s'en explique, c'est un livre assez volumineux. Alors il s'agit, pardon, il s'agit d'un traîne. Traîne, T-H-R-E, accent grave, N-E. Alors, qu'est-ce que le traîne? Le traîne, nous dit Michel Deguy, c'est un chant funèbre accompagné de danse. Mais qui est Michel Deguy? Je le rappelle quand même pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas. Michel Deguy, il est né le 23 mai 1930 à Paris. Il a eu trois enfants. C'est un agrégé de philosophie qui a enseigné la philosophie au lycée à Paris jusqu'en 1968. Puis, devenu professeur à l'université de Paris 8. Il est président du Collège international de philosophie de 1989 à 1992, c'est pas rien. Il préside la Maison des écrivains jusqu'à fin 1998 et le Centre international de poésie de Marseille. Il est rédacteur en chef de la revue Poésie, éditée par Belin. Il est membre du comité de la revue Les Temps modernes. Et après, alors il a cumulé les prix, hein, après les prix Fainéant, le prix Max Jacob, le prix Mallarmé, il a reçu le Grand Prix national de poésie en 1989, et d'ailleurs pour sa revue Poésie, le prix de l'Encyclopédia Universalis. Alors je ne vais pas énumérer tout ce qu'il a publié comme recueil. Il a publié aux éditions Seuil, il a publié chez Gallimard, il a publié au Champ Vallon. Il est également traducteur. Alors, il va traduire, bien sûr, un philosophe, Heidegger. Et cette approche de Hölderlin, qu'il publie chez Gallimard en 1902. Et surtout, alors, il est traducteur. Ceci, à mon avis, est très important. Cette traduction de Paul Celan, ils m'ont beaucoup marqué. Paul Celan, il faut acheter la revue de poésie numéro 9. C'est là qu'il y a cette traduction. Et il a aussi édité, alors, avec un autre poète, un poète mathématicien, Jacques Roubaud, 21 poètes américains, c'est chez Gallimard. Et avec Jean-Pierre Dupuis, il publie René Girard et le problème du mal chez Grasset en 1982. Et avec Florence Delay, Natacha Michel, Michel Chaillou, Jacques Roubaud encore et Denis Roche, il compose L'Hexaméron, ça parut au Seuil en 1990, avec et pour Claude Lanzmann, au sujet de Shoah. Voilà, on en parle beaucoup actuellement, puisque Claude Lanzmann vient de mourir. Donc, il faut lire donc au sujet de la Shoah, des auteurs dont j'ai parlé. Alors, le travail de Michel Deguy a fait bien sûr l'objet de plusieurs études, notamment une essentielle de Pascal Quignard, un des plus grands écrivains, je pense, actuellement vivant, et de Max Leroux chez Gallimard, ensuite de Jean-Pierre Moussaron, La poésie comme avenir. Ça a été publié à Montréal, puis à Grenoble en 1991. Et puis, un fameux colloque international donc sur son œuvre à l'École nationale supérieure de Fontenay en 1995. Le poète que je cherche à être lui fut consacré, dont les actes ont paru en 1996. C'est une coédition, et belle coédition, des éditions Belin et des éditions La Table Ronde. Voilà en gros ce qu'on peut dire de ce monument quand même de la poésie française qu'est Michel Deguy, donc depuis les années 60. Alors ce livre, c'est un livre bouleversant, je veux dire, vous allez comprendre tout de suite la présentation qu'il en fait, à ce qui n'en finit pas. Le traîne, donc c'est un traîne. Le traîne est un chant funèbre accompagné de danse. Te survivre ne va pas de soi. Je ne crois à aucune survie hors celle qui est la mienne pour aujourd'hui et qui reprend la peine au réveil. Je ne crois à aucun commerce avec les morts, hormis celui que j'entretiens avec ton empreinte en moi. Je ne crois à aucune vie éternelle. Nous ne nous retrouverons jamais nulle part, et c'est précisément ce défoncement du futur qu'aucun travail de deuil ne remblira. En quoi consiste la tristesse? Cette tristesse qui disparaîtra à son tour avec moi. Il y a un mois mourait ma femme. Je ne peux dire tu mourais d'un tu affolant sans destinataire. Et je dis bien mourais. Non pas dépérissez, ou lisez, ou voyagez, ou dormez, ou riez, mais mourez, comme si c'était un verbe, comme s'il y avait un sujet à ce verbe parmi d'autres. Voilà. À ce qui n'en finit pas. Alors ce livre n'est pas paginé, parce que chaque page, ou presque, nous dit l'auteur, pourrait être la première ou la énième. Tout recommence à chaque page, tout finit à chaque page. À ce qui n'en finit pas, traîne. À ma femme disparue, en mort, le 17 janvier 1994, Pâques. Juillet 1994. Il y a donc deux chagrins d'amour. Le deuxième est celui de la séparation irrémédiable après la vie, quand l'amour s'est tellement transformé au cours des décennies, contrarié, palinodique, qu'on se demande si c'est le même. Pour les tristes aussi, l'amour a eu lieu. Je découvre, comme le quid progédior de Tite Live, au bord de l'océan sans frontières que j'ai tant cité, l'étendue peu à peu de ma tristesse. Je descends dans l'insondable, gyration dantesque. Je descends. Elle a passé. Elle est passée, elle a passé, l'épreuve. Elle est reçue par la mort, je descends. Et comment je remonterai sa vie passée, notre vie, sa hantise sur mon dos, ce lambeau d'allusion orphique, je ne sais. Mais je ne craindrai pas de me retourner sur elle, sur nous, car je sais que je ne la remonte pas vivante. Déjà, nous ne sommes plus dans le mois de sa mort. J'ai beaucoup de peine. J'ai énormément de chagrin. Il faut que je l'écrive à quelqu'un cet après-midi. Donc à moi. Une peine infinie. Qui déborde ses causes, qui ne pleure pas seulement sur la vie de M. Ni sur moi esselé. Ni sur notre vie que j'essaierai de décrire une autre fois, et sur notre monde, mais surtout sur le tout, sur le monde, un déluge de larmes qui passerait par mes yeux, noyant, répétition, sans doute, du moment évangélique, quand il pleure sur les siens, sur le monde, sur l'univers, occasion de pleurer sur Super Flumina. S'écrire des lettres, est-ce une destination? Est-ce possible parce qu'on est seul? Je veux protéger cette désolation, ne pas changer les idées pour devenir un diapason, une résonance de cet âge désolant. Déjà, nous avons changé de moi. Pietà. C'est comme si on frappait tout le temps un blessé à terre, celle qui s'étend là, sous nos pieds, battue. Le silence est devenu son silence. L'ignorance générale, sa perte de connaissance. Les choses ne respirent plus comme elles, ne répondent plus. Tout ce que nous faisons, disons, autant de coups, mortel, accablant un enfant, abattant la faiblesse, l'ensevelissant encore un peu plus, elle, la désarmée, sans réplique, l'évanouie, l'éreintée. Je ne la protège plus, mais l'ai-je protégée ou l'ai-je réduite? Évincé. À la faiblesse, à ceux qui ont le dessous, je couvrais par des plaintes, des gémissements, l'oiseau des images de ton agonie. Je lui ai passé mon alliance, notre symbole, au doigt pour la deuxième fois en 40 ans, le 17 janvier. Au moins, ne lui ferai-je plus jamais de peine. Elle fut le courage de la vaine condition, l'assomption des tâches et rieurs. Elle bordait, rapprocher strictement les deux bords des choses imposées. Maintenant, l'abîme se creuse où je tombe avec elle en la tristesse révélée. Et comme je n'ouvre plus ni ne ferme rideau ni volet. La chambre est en deuil, noire. Et quand la porte en demeure entrouverte, il y a ce trait vertical, sombre, cette étroite colonne de noir qui en marque la séparation dans le salon. Eût-il été possible de lui donner la mort, je veux dire, de la confier à la mort, avec plus de tendresse, nous regardant plus souvent l'un l'autre dans et à travers ce savoir de sa mort, dans l'approche chaque jour de cette mort, de la coucher tendrement, de l'en mourir comme on endort un enfant, l'abordant, caressant, soignant dans la mourition, avec peine et larmes laissées sur le visage, l'accompagnant jusque possible, si nous avions été plus âgés encore, moins pudiques aussi, depuis tant d'années, plus confiants dans un passé qui eût été moins contentieux, échangeant de l'amour contre de la mort avec de l'amour. Aussi, bien sûr, si je t'avais moins abandonné sur le seuil des églises, si prier avait eu du sens, mais je t'avais retiré cela aussi. J'avais aussi asséché ton âme pieuse, soustrait le... Si j'avais su mieux parler des choses à l'ordre de notre jour, telles se retirer et du suicide est déchirant. Je dois dire aussi cet amour-là de M et de Raphaël, son dernier amour, le plus intense, de ce qui aura été la dernière part de sa vie. Rien que d'en inscrire le nom, la mention, le nom propre de cet amour, le monogramme MR, le plexus se crispe et tout le thumos se remplit de larmes. Cet amour a pleuré presque 8 ans, cet amour que je pleure aujourd'hui, menacé par la mort, asphyxié par la mort. Et pendant les dernières semaines, elle voulut à peine le revoir, la honte l'emporter. Je ne sais pas si le syntagme de grand-mère, qui affuble la féminité d'une vague infirmité, l'illustre d'un corps lourd d'effets stéréotypes accablants, cette caricature que chaque classe sociale aggrave encore de ses euphémismes, ses mémés dans la basse et mamie dans la haute. Je ne crois pas que le syntagme, avec son phylactère dans l'intarissable et médiocre imagination, dispose à considérer cet amour, à le bien traiter, à lui rendre justice, cet amour qui la retenait et ne put la retenir parce que la mort est plus forte que l'amour. Le jeu, les premiers petits livres, la prière, le lit du matin, le jardin, la traversée des rues par la main, les abécédaires, la vigilance anxieuse du moindre écart, la protection, les cartes, la bataille, la retourne, les annonnements, les dessins affichés dans la cuisine, les photographies, le corps croissant chaque semaine, la garde-fièvre, les baisers incessants, les lessives, les câlins, le verre d'eau dans la nuit, les vacances, les sorties de l'école, les gides sous l'averse, l'ombre contre le soleil, les diminutifs, la toilette, la danse, l'éloge, la gronderie, la pâtisserie, les soins grammaticaux, dos camo, le couple, grand-mère, petit-fils. Bien assez tôt viendra le soupir profond, substitué aux larmes, qui congédie en même temps qu'il évoque le souvenir, la revenance. Je n'aime pas que les ex-proches fassent tout pour ne pas même prononcer ton nom, relater une bribe du passé, mais tout pour enfoncer dans l'amnésie, précipiter le l'été. Bien assez tôt viendra le contraire de l'insomnie. Si je n'entoure pas de soins le deuil, qui le fera? Et il passera lui aussi dans le futur antérieur. Oui, j'ai 3 conférences à préparer cette semaine, mais je devrais ne pas m'y appliquer, mais à toi, à nous. C'est à quoi servait le deuil autrefois. Et tout ce qui faisait l'objet de la guerre, entre nous, pareil à une chose qu'on s'arrache, mais laquelle? Et qui maintenant ne m'intéresse plus parce que je l'ai trop à moi tout entière. Nous sommes sortis de l'indivision et de son duel. Sa demande était que je ne la laisse pas seule, qu'il y eût un nous prioritaire, que je ne la relègue pas aux femmes répudiées. Et à la fin des fins, c'est pourtant ce qui a lieu, la disparition, la défaite. Au point que, très peu de jours après la relégation en terre, on ne me parle plus d'elle. C'est arrivé plus vite, plus implacablement que je craignais. Le deuil est encore plus privé que je le redoutais. L'horreur de mon injustice irréparable, de cette faute que sa mort rend essentielle, se scelle. Il a une citation. Un homme là du génitif et là de l'histoire, du même divise contre lui-même, ô femme répudiée, portant les faisceaux du savoir, mais en forme, défaut sur le champ, apostrophe sur les tempes, près des bêtes tachées, qui mouraient jusqu'au bord. Je vais repartir, avec beaucoup de voyages, pour des années peut-être. Désormais, aucune de ces distances élargies qu'elle redouterait ne nous séparera plus que celle de la fenêtre de haute rive, aussi près du cimetière à l'horizon. Distance infinie. Ou bien faire retraite et méditer tout cela. Mais il faut que je m'habitue à travailler dans les chambres d'hôtel, qui ne seront pas plus étranges que les chambres de la solitude dans nos maisons. Ne me suis-je pas retiré après le choc indolore de 1987 pour écrire le comité? Mais c'était dans le bonheur familial, au pied du Ventoux. Renoncer à ce voyage africain, américain, pour écrire d'une traite ce livret, ou l'écrire en Afrique, avec qui parler? Comment vieillir? Comment mourir? Voilà les questions. Et beaucoup plus loin, Duellium. La découverte de l'homme comme mon semblable, mon frère, de cet être qui est en lui-même semblable à être de pure ressemblance ou visage, cette découverte qui est notre avenir, si nous en avons un, s'autorisera toujours du dernier vers du premier poème baudelairien. Mais les fleurs du mal ont leur verso noir, et ce déni de fraternité, on le sait, tourne son exécration vers les Belges. Dans À celle qui est trop gaie, pièce condamnée, le sujet lyrique rêvait d'infuser son venin à sa sœur en pratiquant sur son corps de nouvelles lèvres sanglantes. Le venin qu'infuse Baudelaire à son frère belge, venin d'encre haineuse, répétitive, et fait de l'horreur d'être soi, de la haine de soi, du dégoût de sa propre déterminité, vulgarité, abjection. Les prédicats belges caricaturent le caractère français et ce portrait qui lui revient. L'accent, la parentèle, le confinement, la propreté, une mauvaise formule d'humanité, formule ratée, mais faite avec des ingrédients humains, le côté humanoïde de l'humain, que tout je aborde comme soi-même. Comment ne pas détester les composantes de la nature humaine ? Rapatrier le divin, soit Emmaüs. Traduire Emmaüs en phénoménologie, à notre compte humain, surhumanisé, anthropomorphose, désespéré, à contre-pente de l'immonde. La pesanteur et la grâce. Emmaüs, c'est la fable de notre corps glorieux, pudique, respectable, être au monde. C'est notre rythme d'apparition, disparition. Je nous reconnais bien là. L'événement de cette apparition est pressenti, relaté dans la périscope, ce qui vient, grâce à la vénération, révélé, attribué à un dieu. Si nous ne traitons pas le corps comme un dieu, si nous ne nous pensons pas dans le schéma de l'incarnation, nous aurons Auschwitz. Nous avons eu Auschwitz. Vous serez comme des dieux. Comprenez-vous qu'il faut de toute urgence, avant qu'il soit trop tard, changer les livres en notre âme, faire remonter dans l'arche toutes les figures, traduire sans relâche les paraboles en poèmes, en citations pour nos circonstances, en entretien, en ordinaire du jour, traduire dans nos langues les révélations, nous approprier le divin, interpréter l'esprit, surhumaniser. Nous avons ventriloqué Dieu. L'avons-nous fait sujet de nos phrases par le truchement des prêtres en des millions de phrases contradictoires. Silence sur Dieu. Ça veut dire cesser de le faire parler. Serait un bon moratoire. Dieu, c'est ce qui ne change rien à ce qui est. Une hypothèse inutile. Les contrariétés intrinsèques de Dieu. Cette compossibilité des incompatibles. Cet oxymore, supposé parfait de tous les oxymores. Nous devrions en faire plutôt un programme d'anthropomorphose. Les fonctions de jugement dévolues à Dieu, au cours des siècles théologiques, devraient être instanciées, confiées à des institutions humaines, assumant la relève des fonctions du défunt, institution hissée, alors par ce fait même de la légère transcendance relative, ironique et cultivée, de cette légalité d'une communauté mise en œuvre. Le temps va donc passer par cette pièce où je disais que le monde faisait un coin. Coin saillant des livres en puzzle, avec le coin d'acacia où les pigeons sédentaires, éventés, font aux fenêtres une volière parisienne, y devenir mon temps dans le présent terrible, qui fascine, méduse, amnésie, prescrit. Je ne pleure plus cet après-midi. Me voici, dirait un personnage claudélien, une sorte de phallo panoptique,
sur un brisant innombrable, mais recevant de la lumière plutôt qu'il n'en déploie, centre de nulle part et de partout circonférence, regard tournant comme des bras chargés qui rapportent des offrandes, des saluts amicaux, la certitude de l'existence des êtres, dans une cellule désarmée où j'aimerais mourir, avant de mourir. Où j'imagine en tout cas le suicide. Désolé comme le dieu impuissant des monothéismes, renonçant, renié, commenté, ou ce maître de noces évangélique sans visite. Je rangerai mes chaussons près du cratère et bourré de drogue, choisirai la crémation d'un volcan. Ton dernier visage, encore aminci, encadré sans épaule, à la lucarne du cercueil hospitalier, reclus sur sa bouche blessée, refaite, gisait entre nous sur le carrelage, et maintenant sous mes paupières, comme la bête détachée de Madame de Montbazon, quand Rancé survint, et si je cite l'avis de Rancé, c'est que le souvenir de cette lecture hallucinée me hante pendant que je mène ces pages vers une sorte de livre. Voilà un livre à la fois bouleversant, mais également, là vous avez vu, le philosophe a repris, bien entendu, je dirais, un peu du poil de la bête. Il a repris de sa verve, de sa révolte. Michel Deguy, à ce qui n'en finit pas, traîne, nouvelle édition revue augmentée aux éditions La Librairie du 21e siècle, donc seuil 17 € à lire absolument. Je pense que c'est vraiment un des livres les plus puissants, les plus terribles, aussi peut-être les plus touchants que nous ait donné ce grand poète Michel Deguy. Voilà, Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.